Merci pour cette présentation, parce qu'effectivement, confronter ainsi deux itinéraires qui se sont déroulés à des époques différentes, dans des pays différents, dans des contextes différents, en évitant de tracer deux lignes parallèles qui ne se rejoignent jamais, ça m'a demandé un petit peu de travail, d'autant plus que je ne me situe pas comme un spécialiste ni de Jaurès, ni de Martin Luther King, ni de Jean Jaurès, ni de Martin Luther King. Puisqu'on a l'habitude de dire toujours Martin Luther King, Martin Luther, non, patronyme King. Et Jaurès, on dit souvent Jaurès, Jean Jaurès, donc j'essaierai quand même de maintenir l'équilibre entre les deux. Jean Jaurès, Martin Luther King. Alors on en parle aujourd'hui, et si on en parle aujourd'hui, je pense que c'est parce que nous nous reconnaissons dans un certain nombre de valeurs, de principes, de combats qu'ils ont menés. Leurs motivations, bien entendu, sont différentes. Nous allons le voir, je crois, au cours de ce cheminement. L'homme de Jaurès, c'est une initiative de la municipalité de Toulouse, qui a été menée avec deux journaux, un journal régional, La Dépêche, et un journal national, L'Humanité. Et vous savez que Jaurès a écrit dans ces deux journaux. Non seulement il a écrit dans ces deux journaux, mais il a créé en 1904 L'Humanité. La Dépêche, bien sûr, existant auparavant. Alors, comment les aborder? A priori, tout les sépare. L'un est un Français, de nationalité française, un Européen. Il est mort en 1914, assassiné, nous allons y revenir. L'autre est un Noir américain, il faudrait dire d'ailleurs états-unien, parce que les États-Unis ne représentent pas toute l'Amérique, bien entendu. Donc un Noir, disons pour la communauté des choses, américain, et il est mort, assassiné, lui aussi, en 1968. Donc deux pays différents, avec un destin tragique qui se termine de la même façon. L'un est un laïc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas religieux, et qui défend les principes, les valeurs de la laïcité. L'autre est un croyant, c'est un religieux. Il appartient à une église, l'église baptiste, qui est la plus importante église protestante des États-Unis et qui regroupe surtout des Noirs américains. Les époques sont différentes, ô combien, les contextes sont différents. Pourtant, on peut relever de nombreuses convergences. Je dirais que tous deux sont des intellectuels, par leur formation, des intellectuels qui sont, entre guillemets, tombés dans la politique. Dans la politique, avec des acceptions différentes que l'on peut donner à ce mot. Jaurès est un homme politique dans le sens plein du mot. King est un homme politique aussi, de façon différente. Mais tous deux se sont engagés dans la politique, et je dirais que tous deux, et ça, ça me paraît très important, ce sont des hommes de conviction, et non des hommes de pouvoir. Ça me paraît quelque chose de fondamental. Même si, bien entendu, il y a des moments où, pour faire passer ses convictions, il faut avoir un certain pouvoir. Mais quelle est la nature de leur pouvoir? Ce sont tous deux de grands orateurs, des orateurs extraordinaires d'après tous les témoins. Jaurès, le grand tribun, grand tribun à la Chambre des députés, grand tribun lorsqu'il s'adresse à des foules. Par exemple, la marche sur Washington dont on reparlera. Tous deux ont laissé des discours célèbres. J'ai un rêve ou j'ai fait un rêve, le discours à la jeunesse pour Jean Jaurès, le discours sur la laïcité, etc. Mais l'essentiel, les unis, je dirais, à travers l'océan et à travers les siècles. Ils sont animés par un idéal de justice. Et pour eux, la justice passe pour l'égalité. L'égalité des droits. Ils sont tous deux contre les discriminations qu'ils combattent. dans la société de leur temps. Ils s'engagent tous les deux contre la pauvreté. Leur méthode d'action est identique. Leur méthode d'action, c'est profondément le refus de la violence. Le refus de la violence, c'est une méthode d'action. Alors évidemment, selon les époques, ça ne s'exprime pas de la même façon. Jaurès, par exemple, c'est quelqu'un qui est pour le suffrage universel. C'est une banalité de le dire comme ça ici maintenant. Il faut savoir ce que ça veut dire. En 1848, lorsque la Seconde République instaure le suffrage universel masculin, je suis très sensible à l'injustice qui est faite aux femmes. Nous sommes à une certaine époque, on y reviendra. Donc, lorsque le suffrage universel masculin est établi par la Seconde République, il y a un dessin qui est célèbre, où on voit un soldat, où on voit un ouvrier, vous allez comprendre pourquoi je dis un soldat, où on voit un ouvrier qui pose son fusil. Et il pose son fusil parce qu'à côté de lui, il y a une urne où il peut déposer un bulletin de vote. Maintenant que l'on peut s'exprimer démocratiquement, nous n'avons plus besoin de la violence qui est représentée par la barricade et par le fusil. Donc, Jaurès est profondément pour la démocratie représentative. J'en connais les limites aussi, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour lui, et nous allons voir comment il agit dans ce cadre-là. Martin Luther King dit volontiers que Jésus l'inspire, mais que sa méthode, c'est celle de Gandhi. Donc ses valeurs, et c'est une référence constante chez lui, ses valeurs découlent de la Bible, mais sa méthode d'action, c'est celle qui a été utilisée par Gandhi, c'est-à-dire la non-violence. Et tous deux sont contre cette violence que la société subit régulièrement, périodiquement, comme une calamité. Je vais parler de la guerre. Jaurès, vous le savez, va être assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Jusqu'au bout, il s'est battu pour essayer d'empêcher la guerre. Martin Luther King va dénoncer, et de façon parfois très dure, la guerre que mènent les Américains au Vietnam. Donc, tous deux sont contre la guerre, ils le disent très nettement et très fort. Tous deux également sont parfois critiqués par leur camp, c'est-à-dire les gens qui sont proches d'eux, mais qui trouvent que soit ils n'en font pas assez, soit qu'ils en font trop dans l'autre sens. Exemple. Bon, vous savez que dans un petit peu la mythologie du début du socialisme à cette époque-là, on oppose volontiers Jean Jaurès et Jules Guesde. Jules Guesde. Donc, on les oppose volontiers. L'un, effectivement, qui se rallie à la démocratie représentative et qui va finalement parvenir à la faire accepter à Jules Guesde. Et Jules Guesde, au contraire, le doctrinaire, proche de Marx, donc très attaché à, je dirais, la lutte des classes d'abord. Pour le reste, c'est plus compliqué. Et donc, on les oppose parfois. Les guédistes reprochent parfois certaines attitudes à Jaurès. Certains aussi, plus laïcards que laïques, lui reprochent d'avoir fait faire la communion solennelle à sa fille. Donc, des critiques en son camp. Du côté de Martin Luther King, on lui reproche parfois d'être timoré. Malcolm X, par exemple, ou les partisans du Black Power, qui sont dans une logique plutôt d'affrontement que dans une logique, je dirais, de non-violence telle que la prône Martin Luther King. Les libéraux blancs également parfois lui font des reproches au niveau de ses scrupules dans certaines luttes qu'il mène, nous verrons lesquelles. Tous deux ont su utiliser magistralement les médias de leur temps. Jaurès, c'est un journaliste aussi. Il écrit à la Dépêche, il écrit dans la petite République socialiste, journal qu'il crée, et il écrit surtout, bien sûr, dans l'Humanité, qui est, je dirais, son journal, hein, même s'il devient aussi le journal de la SFIO, c'est-à-dire du Parti Socialiste de l'époque. Martin Luther King, lui, n'écrit pas dans la presse, mais il va savoir, je dirais, d'une certaine façon, utiliser ce moyen de communication extraordinaire qu'est la télévision. Et la télévision va jouer un rôle important dans la lutte que va mener Martin Luther King. Tous deux ont été assassinés. Et tous deux ont été reconnus après ou avant leur assassinat. Jean Jaurès a été assassiné en 1914. Son assassin, Raoul Villain, lecteur assidu de l'Action française, qui parlait de Jaurès en disant toujours R. Jaurès, parce que, évidemment, il était contre le déchaînement du conflit, eh bien, Raoul Villain assassine Jaurès le 31 juillet au Café du Croissant, et Raoul Villain va être acquitté. Ça paraît assez extravagant. D'ailleurs, il mourra en Espagne quelques années plus tard. Je parle de Raoul Villain. Et Jaurès sera panthéonisé lorsque le cartel des gauches gagnera les élections en 1924, et donc il deviendra l'un des fondateurs. L'un des grands hommes. Il y a les grands et puis il y a les autres. Donc, l'un de ces grands fondateurs de la Troisième République. Je vais en préciser un petit peu les contours. Quant à Martin Luther King, ben vous le savez, il a été reconnu de son vivant, puisqu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Donc, très jeune. Il est né en 1929. Donc, en 64, il reçoit le prix Nobel de la paix. Voilà donc, si vous voulez, quelques rapprochements que l'on peut faire entre ces deux hommes. Alors, si vous voulez, je vais aborder maintenant le contexte de leurs premiers engagements. Ces deux hommes, comment se sont-ils formés, quelles influences ont-ils reçues, et comment ont-ils réagi dans le contexte du temps. Bon, Jaurès, vous le savez, est né à Castres. Il est né le 3 septembre 1859, puisque c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Il est né dans une famille bourgeoise. Famille bourgeoise, négociants, qui n'ont pas réussi dans les affaires. L'orage est là. Non, je sais. Donc, famille bourgeoise, négociant, des affaires assez calamiteuses. Et ses parents sont obligés d'exploiter une petite ferme de 6 hectares. C'est dire que c'est une famille bourgeoise, mais qui a des difficultés économiques. Dans la famille, on est de tradition catholique. Et on a dans la famille un certain nombre d'officiers, dont des liens avec la religion catholique et avec l'armée, le corps des officiers. C'est important de le dire, surtout pour l'époque, vous allez comprendre pourquoi. C'est un élève brillant. Un élève brillant, mais compte tenu de la situation économique de sa famille, il pense passer le concours des postes. Grande modestie. Seulement, un inspecteur général de l'éducation nationale le remarque et va le pousser. Et finalement, Jaurès va aller au collège Sainte-Barbe, collège religieux, puis au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Il passe le concours d'entrée à l'école normale supérieure, où l'on forme, ceux qui sont appelés théoriquement à tenir les rênes, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine intellectuel ou ailleurs. Et il est reçu premier. Premier au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il y passe 3 ans, il en ressort en 1881, et là, bon, il est agrégé de philosophie, mais il se fait brûler la politesse par Bergson. Il n'est que second. Bon, compte tenu de la carrière de Bergson, en tant que philosophe, donc de brillantes études. Et il commence une carrière d'enseignant. C'est tout à fait classique. Et donc, il est muté au collège d'Albi, La Pérouse, collège bourgeois du centre-ville. Et là, bon, il reste de 81 à 85. En même temps, comme il est près de Toulouse, il est chargé de cours à l'université, à partir de 1883. Et il commence une thèse. Une thèse, là aussi, itinéraire ultra classique, qu'il soutiendra en 1892, de la réalité du monde sensible. Bon, je vous avouerai que je n'ai pas lu cet écrit de Jaurès. Il fait même une seconde thèse sur le socialisme allemand en latin. Je ne l'ai pas lu non plus. Alors, ses premiers pas politiques, quels sont-ils ? Ben, c'est un républicain. Qu'est-ce que ça veut dire être un républicain ? Il est pour la République profondément, mais il n'arrive pas encore à se situer précisément. Il est proche de Léon Gambetta, il est proche de Jules Ferry, il soutient les lois scolaires de 81-82. 81, c'est la gratuité, et 82, comme la gratuité a été établie, on peut rendre l'école obligatoire, et pour qu'elle soit obligatoire, il faut aussi qu'elle soit laïque. Donc, c'est l'école gratuite obligatoire. Donc, il est tout à fait favorable à cette politique qui est menée par ces républicains, qui veulent faire les réformes en fonction des opportunités, c'est-à-dire des possibilités, et qu'on appelle opportuniste, qui est un mot un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais qu'on utilise à l'époque. Donc, il est proche de ces républicains. Et, en tant que républicain, il est sollicité par les républicains du Tarn, pour qu'ils soient candidats sur leur liste pour les élections législatives. C'est un scrutin de liste. Et donc, Jaurès est inclus dans cette liste et il est élu député du Tarn en 1885. Alors, ces options, ce sont d'abord la défense, le soutien de l'aide scolaire. Compte tenu de son parcours, cela ne vous étonnera pas particulièrement. Mais, je disais, il a une difficulté à se situer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il voit les opportunistes, et lorsqu'il voit également les radicaux, il considère que ce sont de véritables républicains, certes, mais qui n'ont pas de sensibilité particulière pour la lutte contre les inégalités sociales. Lui, il est d'un département ouvrier. Et les difficultés du monde ouvrier, il les voit. Et il considère qu'il faut aussi agir dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de loi sociale, ou alors elles sont vraiment très, très limitées, qu'il n'y a pas de protection sociale généralisée, qu'il n'y a pas de système de retraite généralisé, etc. Et donc, lui, il est très sensible à cela. Alors, quand il regarde du côté des socialistes, il est choqué par la violence de leur discours, et en particulier celui de Jules Guesde. Et donc, il a beaucoup de mal à prendre une décision. Il se trouve à la croisée des chemins, en fait, entre 86 et 93. En 89, il y a eu de nouvelles élections législatives. Il a été battu. Quand cela ne tienne, il se présente au cours d'une élection partielle municipale à Toulouse et il va devenir conseiller municipal à Toulouse. Il est dans la majorité et il va être adjoint chargé de l'éducation. Et là, il va découvrir de nouvelles choses, c'est-à-dire qu'il voit, en tant que responsable de la case des écoles en particulier, il voit dans les quartiers populaires de Toulouse les difficultés de ces Toulousains qui doivent envoyer obligatoirement leurs enfants à l'école. Il n'est pas question que les enfants aient travaillé pour arrondir le petit revenu mensuel familial. Donc là, il découvre, après le département du Tarn, il découvre une certaine misère urbaine également à Toulouse. Et il finit sa thèse, puisqu'il a un repos forcé, puisqu'il a été battu aux élections législatives, bien qu'il soit conseiller municipal, il finit sa thèse, et il lit tous les grands classiques de l'époque socialiste. Il lit Louis Blanc. Louis Blanc, il faut savoir, c'est celui qui a eu l'idée des ateliers sociaux, que sous la Seconde République, Louis-Marie a été chargé de mettre en place. Il les appelait des ateliers nationaux, et il les a délibérément sabotés pour qu'ils échouent, et pour que tout le monde voit que les idées de Louis Blanc étaient des choses irréalisables. Donc, il lit Louis Blanc. Il lit Proudhon. plus anarchiste que socialiste. Il lit Marx, très marxiste. Il lit Lassalle. Et puis surtout, il est très proche du bibliothécaire de l'école nationale de normale supérieure, Lucien R., qui est un socialiste, et qui nous fait découvrir tous ces auteurs socialistes, et qui joue un rôle très important dans sa formation, non pas intellectuelle, mais dans sa formation politique, et qui joue un rôle très important au moment de l'affaire Dreyfus. Mais sa rencontre avec le socialisme n'est pas seulement intellectuelle. Elle se situe sur le terrain, et en particulier, il est très sensible à la condition des mineurs, qu'il connaît bien, puisqu'il était député du Tarn. Il participe au congrès des mineurs de Saint-Étienne, en 1886. Et lorsqu'il siège à la Chambre jusqu'en 89, il pose régulièrement le problème de la protection sociale pour les ouvriers en général, mais en particulier pour ces ouvriers mineurs qu'il connaît si bien. Il réclame pour eux des retraites également. Il siège à la commission des mines. Donc, il a un rôle législatif, si vous voulez, relativement important. En même temps, il soutient les mouvements sociaux de son temps, mais il refuse la violence. Alors, soutenir les mouvements sociaux de son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a un épisode qui est célèbre, c'est la grève des mineurs de Carmaux. Cette grève des mineurs de Carmaux, elle se déroule du 16 août au 3 novembre 1892. C'est une grève longue. Pourquoi? Une injustice profonde a été commise à l'égard d'un de ces mineurs qui a été élu par les habitants de Carmaux maire de la ville. C'est donc Jean-Baptiste Calvignac, mineur, qui est le maire de la ville. Ce maire a besoin d'un congé pour pouvoir remplir ses fonctions. Il se trouve que le député de la circonscription, c'est le marquis de Solages. Le marquis de Solages, il est député, il est aussi propriétaire de la mine. Autrement dit, c'est le patron du maire de la ville. Et les deux hommes sont politiquement totalement opposés. On est presque dans la caricature là. Hein. Et Solages refuse à Calvignac le congé qu'il demande pour pouvoir remplir ses fonctions de maire. Eh bien, non seulement il refuse, mais il révoque Calvignac. Et c'est pour soutenir Calvignac que les mineurs organisent cette grève. Et Jean Jaurès soutient, par ses articles à la Dépêche, l'action des mineurs. Tout cela se terminera par la déconfiture de Solages, qui sera obligé de démissionner de son siège de député et qui sera obligé de réintégrer Calvignac. Parce que la loi permet à ce moment-là donc d'accorder ce qui est nécessaire du point de vue d'un congé à quelqu'un qui a été élu pour assumer ses fonctions, surtout là en particulier les fonctions de maire. Mais un mouvement social dans lequel il n'y a pas de violence. Et Jaurès pose les choses très clairement. En revanche, il s'insurge contre la violence d'État au moment du 1er mai 1891. Dans l'histoire du socialisme, c'est une date qui est très connue. À Formy, petite ville textile du Nord, le 1er mai est un jour de grève et de revendication. Ce n'est pas un jour férié, bien entendu, à l'époque. Hein. Et donc, les ouvriers de Formy se sont mis en grève le 1er mai et ils défendent des revendications, en particulier la journée de travail de 8 heures et l'augmentation des salaires. À cette époque-là, on envoie souvent la troupe face aux grévistes. Alors, que se passe-t-il exactement? Il y a quelques jets de pierre de la part des grévistes qui se rapprochent des soldats. L'officier qui commande ordonne de mettre baïonnette au canon pour les écarter. Les soldats, parce que les manifestants sont là tout près, reculent un petit peu pour mettre les baïonnettes. Il y a un petit peu de confusion et on ordonne le feu. Les soldats sont équipés de fusils Lebel. Les fusils Lebel, ce sont des fusils à 8 coups, à 9 coups, plus une balle dans le canon. Et ce sont des fusils d'une puissance tout à fait considérable. Les soldats tirent. Il y a 9, peut-être 10 morts, dont un enfant. Eh bien, cette fusillade de fourmis va profondément marquer le mouvement ouvrier français. Et Jaurès s'insurge contre cela. Et son engagement s'affirme lorsqu'il rencontre Jules Gade. Alors, on cite toujours cette fameuse rencontre qui eut lieu en mars 1892 à Toulouse, entre les deux hommes. Jaurès a convaincu Gade qu'il fallait se rallier à la démocratie représentative avec le suffrage universel. Et Gade a convaincu Jaurès que pour l'instant, les socialistes ne pouvaient pas participer au pouvoir. Et vous savez que Jaurès, alors qu'il gagnera pratiquement les élections en 1914, avant la guerre, avec Caillaux, eh bien Jaurès ne peut pas jamais un gouvernement. Son influence est ailleurs. Donc, il y a ces choses-là qui se jouent à ce moment-là. Et en 1993, Jean Jaurès est réélu sur un programme gaudiste. Mais Jean Jaurès restera Jean Jaurès. Martin Luther King. Martin Luther King est né à Atlanta, Géorgie, le vieux Sud, le Sud profond. Il est né le 15 janvier 1929. C'est le fils d'un pasteur baptiste et d'une organiste. Donc, il est né dans un milieu religieux de l'église baptiste. Il fréquente les écoles noires. De toute façon, il n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Donc, il est dans les écoles noires, puis ensuite, il va dans une université réservée aux garçons noirs, à partir de 15 ans, et ce n'est qu'après qu'il va en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, où la discrimination raciale n'existe pas comme dans le Sud, qui est un petit peu à la limite, si vous voulez, du Sud. Et là, il passe une licence de théologie qu'il obtient brillamment en 1951. Puis, il va à l'université de Boston, qui est une université prestigieuse dans le nord-est des États-Unis, université même un petit peu huppée. Et là, il obtient son doctorat en philosophie en 1955. Donc, Martin Luther King, malgré les accusations de plagiat qui lui seront faites par la suite, en fait, on l'a accusé d'avoir utilisé une publication de notre, une thèse de notre étudiant. Bon, alors, vaste problème, qu'est-ce que c'est que le plagiat? Quand on fait de la musique, on la fait toujours avec cette note. Même s'il y a des demi-tons, des dés et des vécards et de tout ce que vous voulez. Mais on ne travaille jamais seul, on travaille toujours avec les autres. Alors, tout dépend de ce que l'on fait, de ce que l'on trouve chez les autres, bien entendu. Si c'est recopié, c'est du plagiat. Mais sinon, bon. Bon, toujours est-il que cette accusation existera, mais peu importe. Nous sommes, lorsque Martin Luther King suit cet itinéraire de formation, nous sommes au début de la déségrégation. C'est-à-dire que le sud des États-Unis est toujours, les Noirs dans le sud des États-Unis sont toujours victimes de la ségrégation raciale, mais commencent à peine la déségrégation. Et pour comprendre la déségrégation, il faut dire ce qu'est cette ségrégation raciale. Cet héritage historique non surmonté. Vous savez que la guerre de sécession s'est terminée en 1865, entre le Nord et le Sud, entre le Nord abolitionniste et le Sud qui voulait maintenir donc l'esclavage, même s'il y avait d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte. Et en 1865, les Noirs américains sont devenus libres. C'est une chose entendue. Mais ils sont restés, souvent, sous une dépendance économique totale. Même si, dans les décennies qui ont suivi, un mouvement d'émigration s'est produit vers le nord-est des États-Unis et un peu moins vers l'ouest, même si ça s'est accéléré après. Mais toujours est-il que dans le vieux sud, dans le sud profond, dans le sud de la Confédération qui avait fait sécession, eh bien, les Noirs sont certes libres, mais c'est tout à fait théorique. Le mouvement progressiste blanc s'y intéresse peu. S'intéresse peu parce qu'on s'intéresse surtout au sort des fermiers, avec leurs difficultés, et c'est le moment où le mouvement ouvrier américain est en train de se construire avec les syndicats. Donc, les débats portent surtout autour de ces thèmes-là. Et ce sont les sociétés philanthropiques qui s'intéressent aux Noirs. Et elles s'intéressent comment? Eh bien, ce sont les églises du Nord. Et ce sont donc des sociétés diverses qui veulent alphabétiser. Donc, la première étape, c'est alphabétiser les Noirs qui sont toujours dans le sud des États-Unis. Alors, je vous signale qu'en 1865, le taux d'analphabétisme parmi les Noirs, à l'issue de la guerre de sécession, était de 90%. En 1900, il était quand même tombé à 44%. En 1910, il était de 30%. Donc, il y avait un progrès de ce point de vue. Mais les Noirs étaient toujours exclus de la vie politique. Ils pouvaient à tout moment être victimes du lynchage, pour des raisons diverses, et ils sont également en butte aux actions du Ku Klux Klan, organisation plus ou moins secrète, raciste, anticommuniste, se réclamant des valeurs de l'Amérique blanche, des WASP, des White anglo-saxons protestants, se réclamant parfois du catholicisme, mais rejetant totalement les Noirs. Alors les leaders noirs, il en existe. Ces leaders noirs, c'est par exemple Booker Washington, qui dans un discours prononcé à Atlanta, dans le Sud, en 1895, dit « Nous devons nous instruire pour nous préparer au moment où nous pourrons exercer nos droits civiques. » Et pour l'instant, il considère que les Noirs du Sud peuvent se cantonner à la vie agraire, agricole, puisque, bon, ils sont surtout, à ce moment-là, ils travaillent surtout les terres. Et lorsque Booker Washington est reçu par Theodore Roosevelt, Theodore, pas Franklin, Theodore Roosevelt, c'est un véritable scandale dans la société blanche américaine. Comment recevoir un noir à la Maison Blanche? La nouvelle génération est plus impatiente, avec par exemple William Dubois, qui en 1905 considère que maintenant il faut combattre légalement pour conquérir les droits qu'ont tous les Américains, et il faut combattre avec les blancs libéraux. Alors, cette ségrégation, ben écoutez, je vais vous lire un tout petit extrait de l'ouvrage de André Caspi, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands spécialistes de l'histoire des États-Unis, et voici ce qu'il dit, c'est très court. Donc nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Sans doute Truman a-t-il lancé le mouvement de long, mais dans l'ensemble, la ségrégation raciale continue de s'imposer dans les États du Sud et dans ceux qui bordent la frontière avec le Nord et l'Ouest. Des lois interdisent les mariages qualifiés de mixtes, réglementent la séparation des races dans les écoles et dans les bâtiments publics. Je suis toujours très gêné quand je lis des textes avec ce mot race parce que ce mot est une imbécilité. Parce que pour moi, les races, ça n'existe pas. Parce que pour moi, il y a unité du genre humain. Mais voilà, on est parfois pris par le vocabulaire d'une époque et puis le vocabulaire qu'on continue à employer. Donc là, je lis. Je disais la séparation des races dans les écoles et dans les bâtiments publics. Avec ou sans loi, un noir ne peut entrer chez un blanc du Sud qu'en empruntant la porte de derrière. Doit descendre du trottoir lorsqu'il croise un blanc. Balaye le magasin, mais ne sert pas les clients blancs. Peut faire un shampoing à une cliente blanche, mais non lui mettre les bigoudis. Bref, le code de conduite qui régit les relations entre noirs et blancs descend dans les détails les plus sordides. Et, qu'il soit écrit ou tacite, conforte les pratiques discriminatoires. Donc, la réalité, c'est celle-là. C'est la réalité que connaît Martin Luther King. Alors, ces premières années de la déségrégation se caractérisent par quoi? Eh bien, c'est un arrêt fameux de la Cour suprême des États-Unis, c'est l'arrêt Brown, qui dit que le double système scolaire, admirez l'hypocrisie, le double système scolaire qui avait été institué et qui était censé donner les mêmes avantages aux Noirs et aux Blancs, c'est ça l'hypocrisie, eh bien, l'arrêt de la Cour suprême affirme que ça ne correspond pas à la réalité. Que les chances qu'ont les élèves blancs et noirs dans des écoles séparées ne sont pas les mêmes. Que les noirs sont défavorisés. Et donc, cet arrêt de la Cour suprême dit qu'il n'y a pas d'égalité et qu'il faut ouvrir à tous les élèves les écoles dès que possible. Dès que possible. Ça veut dire qu'on a toujours un petit délai. En 1957, c'est l'affaire de Little Rock. Eisenhower est président des États-Unis. Il y a 9 jeunes noirs qui veulent aller dans des écoles blanches. Par toutes sortes de moyens, on les en empêche. Eh bien, le président Eisenhower décide de faire appliquer la loi et envoie la garde nationale pour qu'on applique la loi de l'Arkansas. En 1960, le Congrès dit que les droits civiques s'appliquent à tous les citoyens des États-Unis. Et, comme l'on sait très bien que beaucoup de noirs ne sont pas inscrits sur les listes électorales, la loi de 1960 décide la création d'inspecteurs qui iront vérifier les listes électorales dans les comtés, c'est-à-dire localement sur le terrain. Voilà donc le contexte. Mais pour Martin Luther King, le moment où tout commence, c'est le boycott des autobus de Montgomery. Épisode célèbre que vous connaissez sans doute. Il est à ce moment-là pasteur dans une église baptiste. Et au même titre que tous les Noirs du comté et de la ville, il vit la ségrégation. Il se trouve que une américaine de peau noire, Rosa Parks, elle a 45 ans à peu près, un jour décide de s'asseoir dans un autobus. Geste totalement anodin, innocent. Seulement, c'est vrai qu'on n'a pas le droit. Parce que les places assises sont réservées aux blancs. Et lorsqu'on lui demande de se lever, nous sommes le 1er décembre 1955, pardon, on est un tout petit, quelques jours avant le 1er décembre 1955, elle décide, elle se lève pas, elle refuse d'obéir. Alors évidemment, engarade dans l'autobus, police qui arrive, et finalement, donc, le 1er décembre 1955, Rosa Parks est arrêtée. Les Noirs de la ville, avec Martin Luther King, décide d'organiser le boycott des autobus de Montgomery. Attention, ils sont 40 000. Ils sont 40 000. Ils sont nombreux à prendre l'autobus pour aller au travail. S'ils boycottent les autobus, c'est la faillite assurée pour la compagnie. Seulement, il faut tenir. Ça veut dire que, au lieu d'aller en autobus, quand on est fatigué, il faut aller à pied. Ou qu'il faut organiser le covoiturage. Certains vont faire jusqu'à 30 km par jour pour ne pas perdre les autobus. Entre le moment où ils vont à leur travail, le moment où ils reviennent de leur travail, et ils vont tenir ainsi pendant des mois. Martin Luther King va être victime d'un attentat terroriste. On va jeter une bombe incendiaire sur sa maison, sur l'église. Mais finalement, les Noirs de Montgomery tiennent et la Cour suprême, le 13 novembre 1956, se prononce et dit que la ségrégation est illégale. Elle est illégale dans les autobus, elle est illégale dans les écoles, elle est illégale dans les restaurants, elle est illégale dans les lieux publics. Et cela apparaît comme une grande victoire. Aujourd'hui, l'autobus qui a donné le coup d'envoi à cette lutte pour les droits civiques est devenu une pièce de musée. Je crois que c'est la fondation Henry Ford qui le détient. Donc, grande victoire. Et Martin Luther King, en août 57, devient le dirigeant de la conférence des leaders chrétiens du Sud. C'est-à-dire, c'est une organisation qui est créée à ce moment-là et qui va diriger pratiquement jusqu'à sa mort. Et donc, la méthode d'action, effectivement, c'est la non-violence. Et après Montgomery, il va faire des milliers de kilomètres à travers les États-Unis. Il va prononcer 200 discours. C'est-à-dire qu'il est devenu un personnage connu, reconnu, qui défend les droits civiques. Alors, après avoir vu Jean Jaurès, Martin Luther King, voyons quelles sont plus précisément les valeurs qui les animent et les méthodes qu'ils utilisent de façon plus précise maintenant. Je pense qu'une de leurs premières motivations, c'est la justice et l'égalité. La non-violence étant la méthode. Donc, justice qui suppose l'égalité des droits. L'égalité des droits est la condition de la justice. Je dis bien égalité des droits. Je ne parle pas d'égalité réelle. Ça, c'est un autre débat encore. Hein. Jaurès, donc, lui, ben, c'est par le vote, c'est par la démocratie représentative. Mais c'est aussi en s'appuyant sur les syndicats et sur les coopératives. Donc la démocratie représentative pour lui doit aussi avoir pour appui syndicats, coopératives, je vais y revenir. Pour Martin Luther King, ce sont les mêmes valeurs, ce sont les mêmes principes, sauf, comme je l'ai déjà dit, pour lui, c'est Jésus qui donne le sens et la méthode et celle de Gandhi. Je dis Jésus, c'est-à-dire le Nouveau Testament, pas l'Ancien, car si on parle de non-violence, c'est plutôt dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien qu'il fallait le chercher. Alors, Jaurès, donc, défend les mineurs, nous l'avons vu, lorsque ce déni de justice est exercé à leur encontre. Et au début des années 90, il participe à un débat qui est très fort dans la société française et qui est le débat sur, je dirais, la protection sociale, c'est-à-dire les retraites et les premières assurances maladie. Je ne parle pas encore de sécurité sociale, hein. Nous savons que c'est à la Libération. Mais nous sommes dans cette logique d'assurance et de protection sociale. Or, il y a un débat qui est très très fort, parce que les libéraux considèrent que ces assurances doivent être facultatives. Alors que les socialistes et une partie de la gauche républicaine considère que ces assurances doivent être obligatoires. Je pense que vous voyez bien la différence. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens qui ne sont pas couverts encore par une assurance maladie universelle, disons, parce qu'on est toujours dans ce système facultatif. Dans le facultatif, ça veut dire que les gens qui sont les plus démunis, ceux qui ne peuvent pas cotiser, ben, seront ceux qui subiront toujours les conséquences de l'usure par le travail ou de la maladie. Donc, c'est un débat qui est très très fort, et Jaurès défend un système général de secours et de retraite. Il ne parviendra pas à faire accepter un système global, mais il acceptera, parce qu'il ne défend pas l'idée du tout ou rien, il défendra du moins le système de retraite des mineurs. Il est solidaire également dans la lutte que mènent les ouvriers verriers de Carmaux. Là, une grève éclate également en 1995 parce que le patron de la verrerie a licencié des syndicalistes. Il faut savoir que les syndicats ont été reconnus légalement depuis 1884, c'est la fameuse loi Valdez-Grosso. Et donc, dans certaines entreprises, c'est quelque chose qui a du mal à être accepté. Et dans cette verrerie de Carmaux, donc, un conflit très dur éclate, avec locoute, fermeture, etc. Alors, je reste à l'idée de créer une coopérative ouvrière. Et il va parvenir à rassembler les fonds. Et cette coopérative ouvrière, qui existe toujours si je ne m'abuse, va voir le jour, non pas à Carmaux, mais à Albi. Ce que certains lui reprocheront, pourquoi Albi, alors que la ville ouvrière, c'est Carmon, etc. Il a également, il soutient également les coopératives viticoles, et en particulier la coopérative des vignerons libres de Montrossan, dans le Languedoc, au moment où les viticulteurs commencent à avoir de plus en plus de difficultés. Vous savez qu'il y aura une très grande crise viticole dans le midi languedocien au début du XXe siècle. Jaurès également s'engage dans l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui provoque un déchaînement d'antisémitisme en distinguant quand même un antijudaïsme d'essence chrétienne qui était véhiculé par exemple par Lacroix à l'époque et un antisémitisme plébéien entre guillemets qui était représenté par exemple par Drummond avec la France juive ou la libre parole. Donc tout cela provoque une flambée d'antisémitisme extrêmement virulente, et vous savez que Dreyfus est pris dans, dans ce tourbillon. Ça y est, je ne retrouve plus le nom de la colonne inspirée, qui c'est Barès. Barès, par exemple, qui parle de Dreyfus en disant qu'il soit coupable, je le reconnais à sa race. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus atroce? Donc, Jaurès s'engage et en 97 il dit, je ne sais pas s'il est coupable, mais il a été condamné d'après un jugement secret. Le jugement secret, c'est une pièce qui a été tenue secrète, et non seulement elle a été tenue secrète, mais elle a été fabriquée parce que c'est un faux. Donc on l'a tenue bien secret. Et en 98, lorsque paraît le pamphlet d'Émile Zola, j'accuse, avec Lucien R, le fameux Lucien R, et avec Peggy, Jaurès est du côté des Dreyfusards. Et là, il est en total désaccord avec Jules Guedde. Jules Guedde qui dit, c'est une affaire de bourgeois. Donc, cela ne regarde pas la classe ouvrière. On ne s'en occupe pas. Ce à quoi Jean Jaurès répond, c'est une injustice qui a été commise, donc cela concerne tout le monde. D'ailleurs, lorsqu'il défend Calvignac, maire de Carmaux, il ne le prend pas en termes de classe, il le pose en termes d'injustice. Donc, Jaurès, là, il s'engage profondément, il écrit de nombreux articles dans la Petite République Socialiste, et il revient, il a été battu aux élections en 89, il revient à la Chambre en 92, il veut obtenir la réhabilitation de Dreyfus, mais vous savez que Dreyfus ne sera jamais juridiquement réhabilité, simplement son procès sera cassé et il sera réintégré dans l'armée avec un grade supérieur, commandant. Par rapport à ce qu'il a vécu, c'était un petit peu fiche, je dirais. Martin Luther King. Eh bien, Martin Luther King, c'est le moment où il organise de grandes marches, les marches de la liberté. Les marches de la liberté, les marches pour l'égalité des droits. Alors, pour l'égalité des droits, des droits civiques. D'abord, après la mairie, la première de ces marches, c'est celle d'Albany. Albany, c'est en Géorgie. C'est une affaire qui va durer près de 2 ans. Là, les militants qui défendent les droits civiques se heurtent à un shérif très astucieux qui, chaque fois qu'il y a des marches, procède à des arrestations massives. Il arrête le maximum de personnes et ensuite il les libère dans les jours ou les heures qui suivent à travers tout le comté. Autrement dit, ainsi il parvient à désarmer les militants en les arrêtant, en les maintenant en prison ou en les maintenant en détention dans un endroit particulier s'il a passé par sa prison, et ensuite on les lâche à travers le comté. Martin Luther King y va parce que, d'abord, c'est son combat, c'est évident, mais en même temps, parce qu'il a subi un certain nombre de reproches. Des militants qui parcouraient les États-Unis dans ce qu'on appelait les bus de la liberté, et qui faisait du testing, c'est-à-dire qu'il testait les actions de ségrégation dans certains États. C'est-à-dire les bus traversaient les frontières d'un État, comment on allait se comporter dans cet État? Qu'allait faire la police? Est-ce qu'on allait est-ce qu'ils allaient subir des mesures discriminatoires ou pas. Et donc, Martin Luther King, bon, ne les a pas très fortement soutenus. Donc, on lui a fait un certain nombre de reproches. Donc, il va à Auburn. Là, aussitôt qu'il arrive, en 61, il est arrêté. On lui demande de payer une caution pour être libéré. Il refuse. Il dit, je n'ai rien fait, pourquoi je paye une caution? Et si vous voulez me garder en prison, vous me gardez. Évidemment, le shérif ne le garde pas. Il ne veut pas payer la caution, très bien, on l'expulse assez rapidement. En 62, en juillet 62, il revient. Il est à nouveau arrêté, et cette fois il est condamné. Il est condamné à 45 jours de prison, ou à une amende de 178 euros. Il refuse de payer l'amende. Donc il doit faire 45 jours de prison. Eh bien, pour ne pas garder en prison, on l'expulse. Et là, à Albany, Martin Luther King va réfléchir sur les méthodes à employer dans cette lutte pour les droits civiques. Et voici ce qu'il dit. C'est lui qui parle. L'erreur que je fis, en parlant d'Albany, était de protester contre la ségrégation en général plutôt que contre une seule de ses facettes distinctes. Vous savez, c'est toujours le problème stratégique. Est-ce qu'on aborde tout ou est-ce qu'on dénonce une priorité, hein, quelque chose en priorité. Donc là, il considère qu'il fallait dénoncer quelque chose de façon précise et en priorité. Une victoire de ce type aurait été symbolique et aurait galvanisé notre soutien et notre morale. Quand on planifia notre stratégie pour Birmingham, car l'étape suivante est Birmingham, des mois après, nous avons pris de nombreuses heures à évaluer Albany et à essayer d'apprendre de nos erreurs. Notre examen ne nous aida pas seulement à rendre nos futures tactiques plus efficaces, mais révéla aussi qu'Albany était loin d'être un échec total. Ben oui, Albany, c'est une victoire. C'est une victoire pourquoi ? Parce que toutes les dispositions ségrégationnistes sont abolies dans les mois qui suivent Albany. Donc, sur le moment, le shérif a procédé par la méthode que je vous ai indiquée, mais ensuite, Albany supprime tous les dispositifs de ségrégation. Alors, l'étape suivante est Birmingham. Birmingham, Alabama. Grande ville industrielle. Sidérurgie. 350 000 habitants. 35% de ces habitants sont des Noirs. Seulement 10% de ces Noirs sont inscrits sur les listes électorales. Et à Birmingham, il y a eu de nombreux crimes qui n'ont pas été élucidés. Crimes, bien sûr, dont les victimes étaient des Noirs. D'ailleurs, on a surmonté Birmingham, Bombingham. On a la bombe facile contre les militants noirs trop connus ou contre ceux qui les soutiennent. Et c'est le pasteur de Birmingham qui demande l'aide de Martin Luther King. Le pasteur de Birmingham qui demande l'aide de King a d'abord déposé une pétition auprès du maire de la ville en demandant que l'on mette fin à toutes les discriminations. Et le maire, avec un humour dévastateur, a dit, oui, cette pétition, je la mets à la poubelle. Autrement dit, véritable provocation. Alors, les protestations sont organisées à partir de Pâques. Et elles vont porter d'abord, prioritairement, contre les discriminations au travail. Dans la stratégie, c'est s'attaquer prioritairement à un problème. Le mouvement pour les droits civiques demande qu'à Birmingham, on ouvre les emplois de vendeurs aux Noirs. Alors qu'auparavant, vous vous souvenez, dans le petit texte que je vous ai lu, hein, le Noir peut balayer, mais il ne peut pas vendre. Donc, que les Noirs puissent devenir vendeurs. Que les salaires ne soient pas aussi inégaux entre les Noirs et les Blancs. Et puis également, lutter contre le chômage qui touche surtout les Noirs. Donc, c'est au niveau de l'emploi que l'effort est porté, avec de nouvelles méthodes. Bien sûr, les marches, mais aussi une nouvelle méthode qui avait été utilisée par Gandhi et qui avait été relancée par une organisation d'étudiants non violents et qu'on appelle les sit-ins. Alors, ça, c'est et on attend. On s'assied en choisissant certains endroits précis. On s'assied devant un restaurant qui pratique la discrimination. Ou on va s'agenouiller devant les églises blanches. Ou les blancs, croyants, pratiquent la discrimination. Et puis on fait des marches. Alors, inévitablement, ces marches sont ponctuées d'arrestations. Martin Luther King est arrêté. À ce moment-là, c'est John Kennedy qui est président des États-Unis. Il intervient pour qu'il soit libéré. Mais les arrestations sont tellement massives, les arrêtés sont parqués, par exemple, au soleil, laissés pendant des heures. Donc, on arrête massivement et les militants des droits civiques se rendent compte que bientôt, on va manquer de marcheurs. On va manquer de volontaires. Alors, on décide de faire appel aux étudiants, aux collégiens, aux écoliers. Certains en chantant se dirigent même vers les prisons pour qu'on les arrête, puisqu'on arrête tous ceux qui protestent ainsi. Mais Martin Luther King hésite. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des enfants? Malcolm X le prend à partie, lui dit « Les hommes ne s'abritent pas derrière les enfants. » Robert Kennedy, frère de John, qui est attorney général, ministre de la Justice, s'indigne également de cela. Martin Luther King hésite. Il quitte la ville. Bref, il est un petit peu hésitant, voire un petit peu désemparé, parce que la non-violence, il ne faut pas qu'elle se retourne contre des gens qui ne peuvent guère se défendre. Et se défendre, bon, qu'est-ce que ça veut dire lorsque on pratique la non-violence et qu'on subit les coups en même temps, hein? Parce que faire un sitting, c'est s'exposer aux coups, bien entendu. Parce que la police, nous allons le voir, ne reste pas inactive. Et la police, donc, elle intervient à Birmingham, elle intervient en arrêtant, elle intervient de façon très violente, elle intervient en utilisant des chiens, et là, les caméras sont présentes. Et filment. Et transmettent. Et transmettent à l'échelle des États-Unis, et transmettent au niveau international. D'ailleurs, l'URSS, dans le cadre de la guerre froide, utilise ces bandes d'actualité comme argument contre les États-Unis. Le gouverneur George Wallace